Voilà, alors oui, quelques mots de présentation. Je m'appelle Bertrand Gounon. Je travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible depuis tout juste une année. Et puis, en tant que responsable du ministère biblique et puis de la dynamique spirituelle au niveau de la Ligue et dans nos différentes activités. Et puis, avant ça, j'étais notamment pasteur à l'église de la Passerelle à Vevey. Et j'ai eu la joie de collaborer quelques années avec votre pasteur Johan. Donc c'était voilà, une joie, et c'est une joie de le retrouver et d'être parmi vous ce matin. Je suis vraiment heureux d'être là pour vous partager la parole. Voilà, on peut mettre le premier slide qui doit être blanc. Voilà, parfait, merci beaucoup. Dans la vie, il y a des moments où on est appelé à se battre pour une cause que l'on estime juste, vraie et bonne, importante. Et certaines personnes font même de cette cause le combat de toute leur vie. Alors il y a des noms et des visages bien connus qui peuvent venir à notre pensée quand on évoque des hommes et des femmes qui se sont battus pour des causes importantes, particulières. Mais dans l'écrasante majorité du temps, eh bien, l'essentiel des causes importantes, justes et bonnes, sont prises à bras le corps, à bras le cœur, je dirais même, eh bien, par d'illustres inconnus tels que nous, par des hommes et des femmes qui ne sont pas sur ce slide, mais des personnes telles que nous qui, dans le secret de nos relations, de nos familles, de nos amitiés, de notre travail, de notre quartier, que sais-je, eh bien, où nous sommes présents et engagés et où nous pouvons vraiment voilà, nous battre avec, voilà, avec les moyens que nous avons pour des causes. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est quelle cause t'anime en ce moment? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ta vie une cause, un combat pour lequel tu te bats, tu t'investis d'une manière particulière? Et la Bible est remplie de quantités de témoignages d'hommes et de femmes qui se sont battus justement pour des causes, qui ont mené des combats. Et puis je vous propose ce matin, pour nourrir notre réflexion par rapport à ça, et par rapport à cette question que je vous pose, eh bien, je vous propose de nous intéresser à une rencontre que Jésus a eue. Et je suis dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc. Alors le texte va apparaître sur le slide. Voilà notre texte. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent: Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées? Quelle cause anime ces pharisiens et ces spécialistes de la loi? C'est quoi la cause pour laquelle ils se battent là? Que tout soit respecté, ouais. La tradition, mais plus précisément, la pureté, ouais. La loi, et en particulier là, dans l'épisode, la purification, le lavage des mains. Le lavage des mains avant le repas, la purification des mains, effectivement, en accord avec la tradition, en accord avec la loi. C'est la cause qu'ils estiment suffisamment importante, juste et bonne, pour aller trouver Jésus et l'interpeller sur l'attitude de quelques-uns de ses disciples. Alors, pour dissiper tout malentendu, le lavage des mains avant le repas relevait sans aucun doute des règles d'hygiène de base, d'autant plus nécessaire à l'époque que les maladies étaient moins bien combattues que de nos jours. Et si mes enfants étaient là ce matin, aucun d'entre eux ne trouverait a priori à redire à ce combat mené par les pharisiens pour un lavage des mains soigneux, scrupuleux avant le repas, tant il est vrai que ma femme et moi devons souvent mener ce combat du lavage des mains de nos enfants avant le repas. Je n'ai pas l'impression d'être le seul à m'être battu pour ça. Mais voilà, la vérité des pharisiens ne tient pas seulement à du pragmatisme hygiénique, et vous l'avez relevé. Ils ont pour eux, dans leur combat, l'exigence posée par Dieu lui-même, de veiller à respecter les règles, la loi, tout ce qui est lié aux règles de pureté et d'impureté. Et je vous renvoie ici au livre du Lévitique. Oui, l'approche israélite de la pureté est liée à la sainteté de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres devaient faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Dans Lévitique 10, nous lisons « L'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée, toi ainsi que tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. » On pourrait dire que ces règles de pureté, eh bien, c'était des aides indirectes permettant très concrètement au peuple, aux Israélites, de se rappeler de la pureté et de la sainteté de Dieu. Avec cette mise en garde sous-jacente derrière toutes ces règles, eh bien, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Mais voilà que dans cette interpellation faite à Jésus, ces juifs religieux ne manquent pas de préciser, on ne peut plus clairement, ce qui motive leurs questions et ce qui motive leur combat. Quel est le moteur? Quelle est la motivation des pharisiens à ce moment-là? Est-ce le cœur de Dieu? Est-ce la sainteté de Dieu, le respect de Dieu? Hélas, rien de tout ça, apparemment, dans leur bouche. Leur motivation, c'est le respect scrupuleux de la tradition des anciens. D'ailleurs, dans ce début de chapitre 7, il n'y a pas une seule mention du nom de Dieu. Dieu n'apparaît pas. Mais il y a trois fois l'expression « la tradition des anciens ». CQFD, c'est révélateur. La cause importante, juste et bonne de ces religieux, ce n'est pas Dieu, mais la tradition des anciens. Parole à la défense, maintenant. Quel témoin Jésus peut-il bien appeler à la barre pour venir contrer les anciens et leurs traditions? Eh bien, en plus de sa propre parole, Jésus appelle le prophète Ésaïe et Moïse. Autrement dit, à travers ces deux témoins emblématiques de l'Ancienne Alliance, face aux pharisiens et à la tradition des anciens, Jésus fait se dresser la loi et les prophètes. Et comme vous le verrez, il ne sera pas donné aux pharisiens et aux spécialistes de la loi d'ouvrir la bouche à nouveau. Alors, nous poursuivons la lecture où nous l'avions laissée. Voilà la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour garder la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais, d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, bien alors il ne peut plus faire pour son père, il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors la première chose que je veux souligner ici, c'est que Jésus n'est pas en train d'apporter un enseignement nouveau. Jésus s'appuie au contraire sur l'Ancien Testament, en se référant à Ésaïe et à Moïse, pour revenir au cœur de Dieu, au cœur de Dieu. Et dans le cœur, dans le désir de Dieu, eh bien, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Alors Jésus la dénonce. Le culte, selon Dieu, c'est le culte du cœur, ce n'est pas le culte du geste parfaitement accompli, réciter des formules sans les comprendre, accomplir des gestes sans chercher leur sens, eh bien, c'est rendre un culte vain, c'est une piété Canada Dry. Vous connaissez le Canada Dry ? Est-ce que quelqu'un se rappelle du slogan, il y a, à l'époque, moi, quand j'avais 20 ans, le slogan de Canada Dry ? Ouais, ça a le goût de l'alcool, je crois qu'il y avait aussi la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ben, c'est ce que dit Jésus, là. Il dénonce la piété Canada Dry des pharisiens et des spécialistes de la loi. Le prophète Ésaïe, cité par Jésus, dénonce cette piété Canada Dry. Ça a les mots d'un culte, les chants d'un culte, l'ambiance d'un culte, mais ce n'est pas un culte. Et je crois que quand Jésus, au premier siècle de notre ère, répond aux pharisiens en citant ses reproches adressés déjà 800 ans avant par le prophète Ésaïe, aux Israélites, eh bien cela montre bien que le risque de distance entre les paroles prononcées lors d'un culte, d'une célébration, et la réalité de notre cœur, eh bien ce risque-là, eh bien ça traverse toutes les époques. Toutes les époques. C'était vrai au temps du prophète Ésaïe, c'était vrai au temps de Jésus, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui pour nous, qu'il nous faut toujours veiller. Car le danger de l'hypocrisie nous guette tous si facilement. Et je me le rappelle à moi en premier. À moi en premier. Jésus ne s'arrête pas là. Il choisit un exemple qui n'est pas anodin pour illustrer justement cette distance, ce grand écart entre la piété du cœur et la piété formelle. Celui du cinquième commandement, l'honneur dû aux parents. Concrètement, la loi de Moïse reconnaissait la valeur du vœu par lequel on consacrait à Dieu une partie de ses biens. Les biens ainsi consacrés à Dieu étaient corban, c'est-à-dire c'était un présent sacré qui ne pouvait plus servir à aucun autre usage que pour le service du temple. Donc c'était une offrande pour Dieu, pour le service de Dieu, le service du temple. Mais ce que faisaient les pharisiens? Ce que se sont mis à faire à un moment donné de l'histoire, les pharisiens, eh bien, c'était de tolérer l'abus qui était fait de cette pratique qui était bonne. Mais ils toléraient l'abus lorsqu'un fils ou une fille préférait offrir de ses biens pour le fonctionnement du temple plutôt que de subvenir aux besoins de son papa et de sa maman. Cet usage revenait à donner la priorité absolue au sacré. Vous voyez, à préférer le sacré aux êtres humains et aux plus proches des parents. Eh bien, Jésus dénonce fermement un tel abus, une telle faute, en leur disant qu'en faisant ça, eh bien, ils abandonnent le commandement de Dieu. Ils abandonnent le commandement de Dieu, rien de moins. Ils annulent, par leur tradition, ils annulent la parole de Dieu. Alors que pour Jésus, eh bien, il n'y a pas d'hésitation. Et c'est sans doute la chose principale à retenir et à vivre. Entre l'être humain et le sacré, voyez le choix que Jésus fait. entre l'être humain et le sacré, Jésus choisit l'humain. Triste constat, il ne s'agit plus ici seulement d'hypocrisie, mais bien pire d'un remplacement de la volonté de Dieu par la volonté humaine tordue, qui n'hésite pas à privilégier le fonctionnement d'un appareil religieux pris en otage, le temple de Jérusalem, au détriment de la solidarité familiale qui compte tellement plus selon le cœur de Dieu. L'exemple pris par Jésus pour dénoncer la perversion des pharisiens peut nous sembler bien étranger à nous aujourd'hui, mais je pose cette question, est-ce que notre société aujourd'hui, notre société contemporaine, est-ce qu'elle est plus respectueuse vis-à-vis de ses anciens? Je pense que ce n'est pas si simple. Ne sacrifie-t-on pas parfois notre solidarité envers ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, peut-être des arrière-grands-parents parfois, et d'autres anciens de notre entourage, au profit de notre vie à nous, notre temps à nous, nos loisirs ou que sais-je, qui sont parfois des nouveaux temples de nos vies. Vous savez, des temples, il y en a toujours. Parvenu à ce stade, et avant d'aborder la dernière partie de cette prédication, je dirais que la tradition, quand même, la tradition, elle est bonne, la tradition, et elle est féconde, lorsqu'elle nous rappelle que nous sommes précédés par toute une chaîne de témoins. Et sans doute sommes-nous invités à nous nourrir de l'expérience des anciens et de leurs habitudes et de leurs traditions, de leurs témoignages. Mais nous devons toujours vérifier que telle ou telle tradition est au service de notre fidélité au Dieu vivant, et pas l'inverse, et pas inverser les choses. Le risque de la tradition, c'est de conserver la forme, en oubliant sa raison d'être, ce pourquoi elle a vu le jour et s'est développée. Le risque de la tradition, c'est de nous conduire à passer d'une relation vivante avec le Dieu vivant aujourd'hui à une piété Canada Dry. Nous poursuivons dans le texte. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Tout ce qu'il peut y avoir là-dedans, dans ma tête. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Vous voyez, c'est à la foule que Jésus s'adresse à présent. L'enjeu est tel qu'il ne veut pas se contenter de confronter les pharisiens et leur attitude coupable. Jésus prend l'initiative d'appeler toute la foule pour les enseigner. Et ce que Jésus s'apprête à leur dire, c'est en fait une nouvelle compréhension du pur et de l'impur. En rupture avec le judaïsme de l'époque. Il leur annonce que le rapport au pur ne dépend pas de ce qui est extérieur à nous, de ce que nous mangeons, les rites que nous pratiquons, les personnes que nous fréquentons, mais ce que nous avons dans le cœur. Ce qui fait de quelqu'un un pur, en deux mots, un pur, ce n'est pas la façon dont il se lave les mains, mais ce qui est en lui, ce qu'il habite dans son cœur, dans ses tripes, dans son fort intérieur, et ce qui sort de lui, ce qui rayonne de lui. Les pensées qu'il entretient, les paroles qui sortent de sa bouche, le regard qu'il porte sur son prochain, le geste qu'il fait pour aimer. En Jésus-Christ, la frontière qui sépare le pur de l'impur, eh bien, ce n'est plus une frontière extérieure qui sépare les humains en deux catégories, c'est une frontière interne à chacun. C'est en moi que ça se joue. Le pur et l'impur en Christ se joue en moi, dans mon cœur. Dans l'archipel du Goulag, l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn se souvient des années où il était officier de l'armée rouge et des crimes dont il était capable. Et puis, il a ensuite connu la déportation pour avoir critiqué Staline. Et fort de cette double expérience, il a écrit « Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, de l'être humain, c'est bien le lieu où tout se joue, mes amis. C'est le lieu où tout se joue. Et c'est ce que Jésus veut voir être transformé chez ses disciples, mais aussi dans la foule des cœurs perdus qui l'écoutent, et chez ses pharisiens au cœur dur. Oui, la piété que Jésus réclame sans cesse à eux, mais comme à nous ce matin. La piété que Jésus réclame, c'est la piété de notre cœur, de notre cœur. C'est le cœur et non les mains qui doit être pur. C'est lui le lieu du sacré. Mes amis, voilà la véritable terre sainte. C'est ton cœur. Ton cœur. Mon cœur. Jésus dénonçait tout à l'heure la folie des pharisiens qui privilégiaient le fonctionnement du temple au profit, ou au détriment plutôt, de la solidarité familiale, du soin à ses parents. Jésus montre à présent que le seul vrai temple, au sens de lieu sacré, c'est notre cœur. C'est lui que nous devons à tout prix préserver de la profanation. Très souvent, ces dernières années, les médias nous rapportent qu'un cimetière, une église, une mosquée, une synagogue ou d'autres lieux sacrés ont été profanés, saccagés, tagués, etc. Et bien sûr que ces actes, quelle que soit la communauté qu'ils visent, sont des actes condamnables, insupportables, mais il y a des profanations tellement plus graves. Et la pire des profanations, eh bien, c'est l'autoprofanation. C'est quand je me profane moi-même. Et c'est ce que nous révèle le texte ce matin. L'autoprofanation consiste à se saccager soi-même de l'intérieur, en nourrissant en soi des intentions nuisibles, en cultivant le mal, en le laissant agir en nous, avec toute la panoplie des choses mauvaises qui peuvent nous atteindre à tel ou tel moment de notre marche. Et de notre marche chrétienne. Et bien évidemment, pour cela, et bien l'action du Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous habite ce matin, et bien son action est primordiale. Elle l'est bien sûr au tout début de notre vie nouvelle, quand Jésus entre dans notre vie, qu'il nous pardonne, qu'il nous rachète, nous purifie, son sang qui nous lave de nos péchés. Mais l'action de Dieu est décisive chaque jour. C'est chaque jour que la terre sainte que nous sommes, que notre cœur est, peut être profanée. Chaque jour. Qui pourrait se lever ce matin dans cette salle maintenant et dire devant tous, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ce qui se joue dans mon cœur, à tout instant, à tout moment, c'est bon, c'est pur. Qui oserait se lever ? Personne. Tant que nous serons sur la terre, nous savons qu'il nous faudra toujours continuellement veiller sur notre cœur, sur ce qui s'y joue. pour laisser, avec l'aide de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit de Dieu, vivant en nous, agissant en nous, le laisser le plus possible, faire en sorte qu'il sorte de notre cœur le plus possible le bien selon Dieu, ce qui est pur, bon, vrai, juste, selon Dieu, et qu'il en sorte le moins possible le mal, selon Dieu. J'ai débuté cette prédication en vous posant cette question: quelle cause t'anime en ce moment? Pourquoi ou pour qui est-ce que tu te bats? Eh bien, je t'encourage et je m'encourage moi-même ce matin à ne pas me tromper, nous tromper de combat. À ne pas nous battre pour une tradition sans vie. À ne pas nous battre pour des choses qui se jouent à la périphérie de nos vies. Ce n'est pas des choses inexistantes, qui ne sont rien, mais qui sont périphériques, qui sont que l'on peut relativiser. Mais à nous battre pour ce qui est au centre, au cœur de nos vies, pour nous, pour chacun de nous. Et puis j'aimerais dire aussi pour chacune de nos communautés, de nos familles, de nos églises, pour vous en tant qu'église de Jésus-Christ à Cossonay. Se battre pour ce qui est au cœur. Et ceci pour la gloire de Dieu, pour sa gloire. Une région de Cossonay connectée au Christ pour la gloire de Dieu. Pour sa gloire. Et puis, quand on vit une vie à la gloire de Dieu, eh bien, c'est pour notre plus grand bien. Parce que ça, il découle de ça des bénédictions pour son peuple, pour nous. Et puis pour nos prochains. Pour cette région de Cossonay et pour tous vos proches. Amen.